Sur ma route, sur RTV FM, une émission réalisée en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse.
Bonjour à tous et toutes, soyez les bienvenus dans l'émission Sur ma route sur RTV FM. Cette émission est réalisée en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. Et dans cette émission, on a déjà abordé plusieurs sujets, comme par exemple la vitesse, l'alcool au volant et plein d'autres sujets. Et aujourd'hui, on va consacrer l'émission sur les stupéfiants au volant. Et pour ça, je suis accompagné de deux invités. Tout d'abord, Dorcas Strasters. Bonjour.
Bonjour Théo.
Vous représentez l'association Prévention Routière, hein, c'est bien
exactement
ça?
Exactement, l'association de la prévention routière du comité 84 et du comité 13. Donc je suis à cheval sur les deux comités.
Et Antoine Ruiz, également avec nous. Bonjour.
Bonjour Théo.
Quant à vous, vous représentez Route et Sécurité, qui est basée sur Avignon, c'est ça?
Oui, à proximité. Et je peux également m'exprimer au nom du pôle sécurité routière de la préfecture, puisque je suis également intervenant départemental sécurité routière.
Alors on va juste revenir vers vous, Antoine, dans un instant, mais auparavant, je vais laisser Dorcas se présenter pour nos auditeurs.
Oui, alors donc je suis bénévole expert à la prévention routière du 84 et du 13. Je suis bénévole, hein, c'est le plus important. Et d'ailleurs, l'association de la prévention routière, qui est reconnue d'utilité publique, cherche et accueille avec plaisir les nouveaux bénévoles. Être bénévole, c'est très simple. Hein. Vous téléphonez au comité ou vous nous envoyez un mail sur le comité 84 et on prendra rendez-vous pour voir un petit peu quelles sont vos motivations et vous former pour devenir intervenant en sécurité routière. Intervention que l'on fait aussi bien dans le public que dans le privé, dans les entreprises ou dans les comités de région.
Et maintenant, je vais vous laisser Antoine Ruiz pour vous présenter.
Oui, alors un peu comme le milieu associatif, la préfecture a également besoin de bénévoles. On a une équipe qui tourne plutôt pas mal et qui porte tous le titre d'IDSR, donc intervenant départemental sécurité routière. Ces intervenants, dont je fais partie, nous avons l'occasion d'intervenir dans le milieu scolaire, en milieu d'entreprise et parfois même dans des centres commerciaux où là bientôt ce sera le salon de l'auto à Avignon ou la foire de Bolène. Donc nous sommes sur des stands, on peut venir nous rencontrer, on est là pour échanger et parfois on fait des animations thématiques. Ça peut être sur l'alcool, ça peut être sur les drogues, sur le téléphone ou autre. Et on nous demande de représenter aussi le discours du gouvernement sur toute la politique de prévention du risque routier.
Bien, alors je rappelle que le sujet d'aujourd'hui, c'est les stupéfiants au volant. Et première question toute simple, qu'est-ce que c'est un stupéfiant?
Pour aider notre ami Ruiz, monsieur Ruiz, je suis allée chercher une définition précise qui va être de l'Organisation mondiale de la santé. Je me suis dit qu'il fallait quelque chose
on peut pas faire mieux, hein.
International. Alors ils ont une définition sur les... Donc, là, le thème, c'est bien, on est sur les substances psychoactives, hein, les stupéfiants. Une substance psychoactive s'entend d'une substance qui, lorsqu'elle est ingérée ou administrée, altère les processus mentaux comme les fonctions cognitives ou l'affect. Je pense qu'on développera ce que sont que les fonctions cognitives et comment elles sont altérées et quelles sont leurs incompatibilités avec le déplacement sur la route.
Voilà, il y a un point important à propos des stupéfiants, c'est ne pas voir uniquement le côté addiction qu'il puisse y avoir, parce qu'on peut être addict à beaucoup de choses qui ne sont pas forcément stupéfiantes, mais ça a une action sur le système nerveux central et qui du coup dégrade beaucoup de choses, dont les facultés cognitives.
Et non seulement quand on prend des stupéfiants, c'est un risque pour notre santé, mais aussi pour celle des autres.
Ah oui, et surtout leur sécurité, parce que la santé des autres, ce n'est pas parce que moi je consomme des produits que je vais... rendre les autres addicts. En revanche, mon comportement va être dégradé parce que j'ai consommé et du coup, c'est leur sécurité qui est en jeu.
En tout cas, on va mettre en danger que ce soit des piétons ou des véhicules, qui que ce soit en fait.
Oui, et puis après, il va y avoir aussi d'autres types de mise en danger. Là, on est sur la sécurité routière, mais on sait que ne serait-ce que le côté social, le fait de se désocialiser, de se couper des autres, l'échec scolaire, tout ça, il y a énormément de choses qui peuvent être des résultats, des fruits des produits.
Alors pour les parents qui nous écoutent, en tant que parents, mais comment peut-être on peut faire face à son enfant ou même tout simplement à un jeune qui consomme du cannabis par exemple?
Déjà le détecter, alors on ne s'en rend pas forcément compte parce que soi-même en tant que parent, on est très, très occupé, très préoccupé par notre quotidien. Mais il y a quand même des alertes qui sont évidentes. Ça va être par exemple au niveau de la scolarité, une chute au niveau des résultats, ou pas de résultats du tout, s'il n'y en a jamais vraiment eu. Ça va être la sociabilisation, comme le disait M. Ruiz. Il va y avoir une désolidarisation ou une asocialisation. Donc tous ces facteurs-là, on va le voir aussi physiquement si on commence à vraiment à regarder. Au niveau de la peau, mais là, ça serait plus médical. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'incompatibilité avec le déplacement qui n'est n'est pas forcément voiture, mais qui peut être le déplacement piéton et tous les risques inhérents justement à la consommation de drogue ou de stupéfiants.
Alors, il y a quand même deux facteurs, et relationnels et éducationnels, qui permettent de réduire le risque, mais qui supposent du coup un mode éducatif. Il faut être ouvert avec ses enfants, il faut être capable de mettre en place une relation sans tabou, que les enfants n'aient pas peur de communiquer avec les parents, plutôt que de leur cacher des choses. Et ça, c'est pas toujours évident, parce qu'on peut être dans des postures relationnelles qui sont un peu clivantes, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a aussi le fait d'essayer de transmettre des choses à ses enfants en santé publique. Et il faut être capable de parler de tout sujet de santé. Et ça, non plus, c'est pas simple, parce que l'éducation à la santé, on a trop souvent l'impression que c'est l'école qui doit la faire. Et alors que le rôle des parents est majeur, mais ils ne s'en rendent pas toujours compte. Et là, je fais le lien avec la sécurité routière, c'est exactement la même chose qu'en voiture. Les enfants vont regarder faire les parents pendant des années et des années. Ils vont les écouter et ils vont être enclins, peut-être pas à recopier, mais en tout cas, ils vont être influencés par ce qu'ils auront vu. Et pour la santé, c'est pareil. Si j'ai des parents qui consomment beaucoup de produits, légaux ou pas légaux, hein, s'ils fument beaucoup, ils boivent beaucoup d'alcool, etc., ben je vois pas pourquoi moi je prendrais des précautions pour ma santé. C'est pas les valeurs qu'on m'a communiquées. Alors que si mes parents me donnent une éducation où je me protège, je fais attention, je suis prudente, à ce moment-là, ça va être différent. Et si en plus on est ouvert dans la famille et qu'on communique, eh ben on limite les risques.
Ça va être tout à fait, je suis d'accord. Évidemment, ça va être une problématique de représentation, de l'image, la représentation que va donner le milieu pédagogique, éducatif et évidemment le foyer familial. Mais la représentation, elle se fait aussi par les adultes et par ce qui peut se passer en bas des immeubles. Je ne vais pas du tout faire un schéma. Il n'y a pas de schéma, mais ne serait-ce que par exemple le cannabis qui malheureusement se propage jusqu'à ce grand V qui apparemment donne une image assez facile et le cannabis ne paraît pas dangereux. C'est parce que l'adulte ou l'adolescent ou le préadolescent consomme du cannabis régulièrement que pour être, je vais mettre des guillemets, mais ça à la radio, ça se voit pas, je vais être cool en consommant du cannabis. Et c'est une drogue très intrusive et qui a vraiment des effets nocifs. De toute façon, c'est forcément une drogue à partir du moment où on recherche un effet psychoactif. Quand on me dit non, le cannabis, ce n'est pas une drogue, puisque les effets sont moindres, non. Si le cannabis n'avait pas d'effet psychoactif, on n'en consommerait pas. Donc c'est vraiment ce que l'on recherche. Et à partir du moment où ça agit sur nos fonctions cognitives, censément, on va avoir une perception qui va être tronquée et on va avoir une analyse qui ne sera pas juste. Moi, je fais toujours la métaphore avec un chirurgien. Si je devais me faire opérer à cœur ouvert et que mon chirurgien avait fumé du cannabis avant, j'aimerais pas bien qu'il m'ouvre mon corps, quoi. Ça serait pas possible. Donc sur la route, c'est la même chose. Ça peut être sur la même chose si on est sur un gyropode, sur une trottinette, sur un vélo. Donc c'est vraiment le lien qu'il faut faire.
Alors bien sûr, donc on a parlé du cannabis, mais il existe différents types de drogues. Et la gendarmerie, il me semble, ils ont un test salivaire pour justement savoir détecter les différents types de drogues. Est-ce que vous savez, peut-être, je pose la question aussi bien à Dorcas qu'à vous, Antoine. Quels sont, on va dire, les risques si on est relevé positif à ce test ?
Alors, vous avez toujours des risques pénaux liés aux sanctions. Alors, les sanctions immédiates, ça va être une rétention du permis de conduire, qui derrière peut être commuée en suspension. Ça peut durer quelques mois. Lorsqu'il y a un passage ensuite devant un tribunal, bah, alors là, le juge, il va avoir tout un arsenal de sanctions possibles, avec des amendes qui peuvent monter à 4 500 € d'amende, à 9 000 si on a un cumul de deux produits différents. Enfin, voilà, il y a tout un arsenal. En revanche, c'est pas le risque numéro un. Le risque numéro un, c'est se retrouver auteur d'un accident où on aura blessé ou tué quelqu'un. Je ne suis pas sûr que qui que ce soit, qu'on soit consommateur ou pas de produits, légaux ou illégaux, je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à assumer une responsabilité de ce type-là. Et il faut vraiment partir du principe que la pire sanction, c'est l'accident. Et après, le pénal, c'est parfois accessoire. Moi, dans mon métier, ça m'est arrivé de croiser des personnes qui ont été auteurs d'accidents, parfois mortels. Et j'en ai rencontré beaucoup qui disaient que s'ils pouvaient donner une jambe pour la survie de la personne qu'ils ont tuée dans un accident, bah, ils le feraient, mais c'est trop tard. Et c'est toujours intéressant d'écouter ces personnes qui ont vécu le drame, si on veut écouter ce discours-là et se placer avant le drame.
Alors Dorcas, vous êtes venu avec le code du travail,
le code de la route. Tout à fait, c'était pour être certain, mais Antoine a très, très bien répondu. On est bien d'accord que ça sera l'article L235-1 du code de la route. Pas du petit code de la route que vous avez en auto-école. Là, il est un petit peu plus complet. Et oui, la sanction peut être lourde et c'est dommage de penser en termes de points. Oui, effectivement, en étant le délit, donc qui dit délit va dire forcément tribunal, et conséquence qui va engendrer des difficultés. Je perds ma voiture, je perds mon travail, je perds peut-être une reconnaissance sociale autour de moi. Ça va être une sorte de finalité. Mais la finalité, ce qui me navre, et je pense qu'il navre aussi Antoine, c'est même les jours autour de nous, on va penser à l'argent que l'on va mettre, à la perte de points. Mais le pire, c'est l'humain qui va, lui, peut-être perdre quelque chose sans forcément penser à la tragédie de la mort, mais ne serait-ce qu'un accidenté, un blessé grave, qui peut-être ne retrouvera plus une vie normale parce que j'ai consommé des stupéfiants, parce que c'est cool. C'est surtout ça le message qu'il faut faire passer. Mais oui, on peut perdre beaucoup sans forcément perdre de l'humain. Oui.
Bien, alors on va faire une première pause musicale et puis on va revenir dans un instant pour la suite de cette émission Sur ma route. Et je rappelle que le sujet aujourd'hui, c'est les stupéfiants au volant. Donc restez bien avec nous. À tout de suite sur RTV FM.
I get real high. Sometimes I wanna raise my hand. Sometimes I wanna do my dance. Sometimes I need to free my mind. Sometimes I get real high. Sometimes I wanna lose control. Sometimes the beat touch my soul. Sometimes I wanna raise my hand. Sometimes I wanna do my dance. Sometimes I wanna lose control. Sometimes the beat touch my soul. Sometimes. Sometimes I need to free my mind. Sometimes I get real high. Sometimes I want to lose control. Sometimes the beat touch my soul. Sometimes I want to raise my hand. Sometimes I want to do my dance. Sometimes I want to lose control. Sometimes the beat touch my soul. Sometimes.
Sur ma route, sur RTV FM, une émission réalisée en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse.
Et bienvenue à vous tous et toutes pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur RTV FM pour la suite de l'émission Sur ma route avec nos deux invités Antoine Ruiz qui représente
le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse et ainsi que mon entreprise Route et Sécurité.
Et Dorcas Trasters qui est avec nous, qui représente
l'association de la prévention routière.
Bien. Alors, bien sûr, il y a des questions que je vous pose et puis il y a des questions de nos auditeurs également. Il y a une question de Clément qui habite à Lorient-du-Cantat. Et il vous pose la question suivante. Est-ce que consommer du cannabis, c'est moins nocif pour la santé plutôt que fumer du tabac au volant ?
Ah, alors, moins nocif que pour la santé, c'est une croyance. En fait, toutes les maladies, toutes les pathologies qui vont toucher le système respiratoire sont au moins aussi importantes avec le cannabis qu'avec le tabac. Là-dessus, il n'y a aucune raison que ce soit différent. On est sur une combustion, sur des plantes en combustion, et on va avoir des dépôts de goudron et autres saletés. Là-dessus, il n'y a pas trop de différence. J'aime bien parfois ce que les vendeurs essaient de faire passer comme message, qui est très, très dans l'air du temps, c'est que c'est bio, et c'est végétal, c'est naturel. Voilà. Alors j'aime bien, comme si le naturel ne pouvait pas être nocif. Voilà. Je rappelle juste qu'il y a des poisons qui existent à l'état naturel. Ne mangez pas une amanite phalloïde, par exemple. Pourtant, c'est bio et naturel. Donc voilà, on est sur un produit qui, de toute façon, n'est pas normal. Nous, les humains, on n'est pas censés respirer les fumées. Voilà, on sait que c'est nocif. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un animal qui soit fait pour respirer les fumées, à la base. Voilà. Donc forcément, quand vous respirez un truc qui brûle, il y aura des effets secondaires.
Oui, le fameux dioxyde de carbone. On ne respirerait pas les fumées de notre cheminée, ça ne viendrait pas à l'idée. Oh, voilà. C'est la même chose. D'ailleurs, il y a une enquête suisse, puisque la prévention routière est très active en Suisse, qui rappelle que fumer du cannabis, pétard plus communément, revient à peu près à 10 cigarettes. On connaît la toxicité de la cigarette, donc on peut se rendre compte ne serait-ce que cet apport-là. Juste petit rappel, il faut aller sur l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'OFDT, qui nous apporte énormément d'informations pour les parents qui ne sont pas au fait de toutes les substances psychoactives. Elles peuvent leur donner des conseils, savoir aussi que, évidemment, ce n'est pas autorisé, mais ça développe aussi une société souterraine. Et les sociétés souterraines, elles ne sont pas toujours très jolies à voir, puisque ça va aider, enfin, je n'en parlerai pas, mais ça va aider des sociétés qui ne sont pas brillantes. Au niveau du cannabis, on a une perte de la mémorisation, qui, avec le temps, très importante, de la concentration. Donc, professionnellement, ça va devenir difficile. Et c'est là où, évidemment, au sein du foyer, ça peut devenir difficile aussi. C'est vraiment une drogue dure. Et non plus, il ne faut plus dire que c'est une drogue facile et pas dure, où il n'y a pas de risque de suce.
Après, quand on est au volant, on va mettre plus de temps à réagir, j'imagine.
Alors, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le temps de réaction est modifié, c'est vrai, mais les effets du cannabis ne sont pas forcément les mêmes que les effets de l'alcool. Il y a par exemple un effet du cannabis qui est propre au cannabis et qu'on ne retrouve pas forcément avec l'alcool, c'est la complexité à enchaîner deux tâches complexes. C'est-à-dire que vous venez de gérer une situation de conduite un peu technique, derrière s'enchaîne une autre situation un peu technique, et vous pouvez très bien faire un blocage à ce moment-là, et votre cerveau ne sera pas assez rapide pour passer d'une phase à l'autre. Ça, c'est un grand classique. Il y a aussi une autre problématique liée à la conduite, c'est le phénomène de focalisation. Une personne sous cannabis, même avec peu de cannabis, peu de THC dans son système, va avoir tendance à focaliser sur des éléments de l'environnement. Voilà, et ce phénomène de focus, il est assez classique. On ne le retrouvera pas avec l'alcool. Avec l'alcool, il y aura d'autres effets tout aussi dangereux, c'est clair. Mais voilà, donc il faut pas essayer de comparer les différents produits. Chacun a ses effets.
Oui, parce que très juste au niveau de la perception, qui est la première chose qui va nous aider à conduire ou nous déplacer en général, c'est comme le dit très bien Antoine, c'est le côté focus. C'est-à-dire que souvent, les gens qui consomment du cannabis se disent « mais je vois beaucoup mieux ». Non, c'est la focalisation. Ils vont être concentrés et non pas attentifs à un point, ce qui fait que tout le reste ne va pas être perçu. Et du coup, l'analyse va être fausse. C'est-à-dire, je vais percevoir un piéton sur le côté droit, donc je reste sur ce piéton-là, je peux tout imaginer parce qu'évidemment mon imagination va peut-être être amplifiée, par contre j'oublie que sur la voie d'en face, il y a un camion qui est en train de faire, c'est pas que j'oublie, c'est que je ne le perçois pas, le camion en face, et je vais peut-être obligé de réagir par rapport à ce camion-là. Donc plus la situation va devenir complexe, plus je vais avoir du mal à être attentif à tous les éléments extérieurs, un des effets du cannabis.
Il y a aussi quelque chose qui est remarquable quand même. Depuis pratiquement une dizaine d'années, on a remarqué que le scénario des accidents avec cannabis est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière, on pouvait définir un accident avec cannabis comme le fait d'un conducteur ou d'une conductrice qui roulait pas très très vite et qui a perdu son attention à la conduite et qui est parti dans un fossé en perdant le contrôle. Aujourd'hui, alors c'est sans doute lié au fait que les taux de THC dans les joints sont de plus en plus forts.
THC, vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est ?
C'est le transtétrahydrocannabinol, donc le produit actif, la molécule active du cannabis, qu'on appelle souvent delta-9-THC d'ailleurs, c'est la définition chimique. Cette molécule active est de plus en plus concentrée dans les produits d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens de ma génération ont entendu parler de l'herbe, de la marijuana, des choses comme ça. on n'était pas du tout sur les mêmes taux de concentration. Aujourd'hui, vous avez des produits beaucoup plus concentrés. En plus, vous avez des préparations où il y a un mélange de résine et d'huile. Et alors là, on dépasse les taux de THC qu'on connaissait à une époque. Et on commence à avoir des accidents qui sont très spectaculaires, avec des grandes vitesses, alors qu'auparavant, le conducteur sous cannabis avait tendance à atténuer son allure. Là, non. Là, on a parfois des accidents avec cannabis seul, pas d'alcool, pas de cocaïne, pas d'ecstasy, juste du cannabis, avec un gros excès de vitesse, une prise de risque importante sur un dépassement dangereux en courbe, par exemple, et un accident mortel à la clé. Donc ça, c'est nouveau, enfin, c'est récent. On voit qu'aujourd'hui, la prise de risque des fumeurs de cannabis devient presque aussi importante que celle des consommateurs d'alcool.
Par quel moyen, c'est la question qu'on peut se poser, on peut arrêter un proche de consommer? Est-ce qu'il faut l'emmener à l'hôpital? Est-ce qu'il faut l'emmener directement dans un centre de dépistage? Comment on peut faire?
On peut peut-être parler déjà, on peut déjà dialoguer. Je pense que c'est la première chose. Déjà renouer le lien familial. Ça peut être aussi l'occasion de renouer le lien familial parce que souvent, il s'est délité. On ne va pas faire de généralité, mais il y a des associations de quartiers, de communes qui sont très actives sur ce terrain-là. Peut-être que déjà commencer, si on ne sait pas, c'est aller voir son médecin. Et puis surtout, aller voir les associations, ce sont celles qui sont les plus actives et qui ont les meilleures personnes pour accompagner, ne serait-ce que psychologues et médecins.
Oui, actuellement, il y a beaucoup de structures qui permettent ça, des associations, des médecins, des hôpitaux, etc. Souvent, le premier obstacle, c'est la prise de conscience.
Oui.
C'est que la personne qui a un problème avec le produit, quel que soit ce produit-là, est-ce qu'elle a conscience qu'elle a un problème avec le produit? Et c'est peut-être là que les proches peuvent réellement aider. C'est juste créer un contexte relationnel où la personne pourra parler, communiquer, échanger. On pourra lui poser quelques questions. Est-ce qu'on peut en parler parce que je suis inquiet, ça me fait peur et tout. Du moment que vous tenez une personne et du moment que cette personne tient également à vous, si vous commencez à la juger, la moraliser, etc., ça ne va pas le faire. Si en revanche, vous lui dites, écoute, j'aimerais qu'on discute parce que je suis inquiet, je suis inquiète pour toi, j'aimerais en savoir plus, il faudrait que tu me parles. Là, le refus est difficile. Là, ça n'est pas jugeant, ça n'est pas mettre la personne sur la sellette, et au contraire, ça crée une ouverture. Il faut, quoi qu'il en soit, il faudra de toute façon utiliser l'empathie. C'est le meilleur remède qui existe, et à travers l'empathie, on arrivera à obtenir des choses. Mais surtout pas de posture de jugement.
Oui, pas de stigmatisation non plus. Bien entendu, la personne en face, elle peut être dans le déni, hein, c'est malheureusement souvent le cas, puisque le cannabis n'est pas reconnu comme une problématique, enfin, n'est pas reconnu évidemment au niveau de la santé publique et mondiale, oui, mais au niveau sociétal, le cannabis n'est plus un problème, puisque 42% des adultes français reconnaissent avoir consommé du cannabis. Donc, on est au même niveau que l'alcool, quasiment, hein, comme l'alcool, une problématique importante. Le cannabis l'est aussi, est au même niveau. Donc c'est souvent le déni sur la personne qui consomme, et s'il y a ce déni, ben, c'est là où il faut, comme le disait Antoine, rester dans l'empathie, essayer d'avancer sur ce terrain-là.
Alors on va faire une dernière pause musicale et puis on va revenir ensemble pour la dernière partie de cette émission. Vous restez bien avec nous, on va boire un peu d'eau et puis on revient dans un instant pour la suite de Sur ma route sur RTVFM. À tout de suite.
La vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas.
Sur ma route, sur RTV FM, une émission réalisée en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse.
Pour la dernière partie de cette émission sur ma route sur RTV FM avec notre sujet aujourd'hui qui est les stupéfiants au volant et bien sûr on est toujours avec nos invités Dorcas Strasters et aussi avec Antoine Ruiz. Alors justement Antoine, je vous pose la question, comment vous abordez-vous le sujet de la drogue, des stupéfiants quand vous intervenez, que ce soit dans des entreprises ou à d'autres endroits?
Alors déjà, je ne dissocie pas forcément les produits d'autres types de risques. On va évoquer le risque en général, que ce soit l'excès de vitesse, le dépassement dangereux, la consommation, etc. Et si on veut amener les personnes à réfléchir à leurs propres risques, l'idée c'est de dire bon ben voilà pourquoi certaines règles je les respecte et puis d'autres pas. J'ai rencontré beaucoup de conducteurs qui me disaient par exemple ah, moi je respecte toutes les limitations de vitesse, par contre le petit apéro le soir avant de prendre la route, voilà. Je suis obligé, je craque. Et inversement, certains, jamais d'alcool avant le volant, mais toujours des excès de vitesse. Donc, chacun a sa propre pratique du risque routier. Après, lorsqu'on essaie de cibler un peu plus la problématique, on est plutôt sur une démarche de santé publique. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre pourquoi la consommation, pourquoi autant, pourquoi aussi fréquemment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la réduire, quels seraient les intérêts à la réduire. Il faut toujours que les gens aient des motivations. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, quoi que ce soit, il faut avoir envie de le faire, donc il faut avoir des bénéfices à le faire. Et puis, l'idée, c'est les aider à trouver des bénéfices auxquels ils n'avaient pas forcément pensé. Parce qu'on pense souvent aux inconvénients, et notamment à tout ce qui est réglementaire, toutes les sanctions possibles. On ne pense pas forcément à l'accident, mais est-ce qu'on pense aux bénéfices à arrêter, à ne plus le faire? Donc, une communication positive, c'est plutôt un bon vecteur. Et puis après, il faut accompagner. Donc, ce n'est pas un one-shot. On ne voit pas les gens une fois, et puis après, basta, adieu, bonne chance. Non, il faut être là régulièrement. Il faut aider à retrouver de la motivation pour le faire. Et puis développer de nouvelles stratégies.
Vous devez faire en sorte qu'ils aient confiance en eux, quelque part.
Oui, c'est important. Et une bonne estime de soi. À partir du moment où j'ai la certitude que j'ai les compétences en moi pour changer, ce sera plus facile de le faire. Et puis, si j'ai envie de le faire, bien sûr.
Alors, on a une nouvelle question d'un auditeur, d'une auditrice, de Magali, qui habite à Baume de Venise. Elle vous pose la question, est-ce que c'est possible d'arrêter seul, par soi-même, les stupéfiants?
Bon, bien sûr, tout le monde a pu arrêter de manger, de boire, de faire attention à soi. Mais si on rencontre une réelle difficulté, donc, c'est toujours pareil, c'est la motivation et le degré de motivation et comment travailler cette motivation. Il va y avoir des moments dans sa vie, on va avoir des parents qui ne sont pas parents et à partir du moment où ils vont devenir parents, vont se dire, bon là je ne peux plus fumer dans la voiture, je ne peux plus fumer du tout, je ne veux pas avoir de mauvaise représentation. Donc c'est vraiment ce travail de motivation. Et si on n'arrive juste pas à l'avoir ou pas suffisamment, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. C'est très important.
Ce que disait Antoine à l'instant, c'est une question d'envie en fait.
Oui.
Mais ça se travaille, la motivation.
Exactement.
Et l'envie.
Exactement. Et ça se travaille, ça se renouvelle. C'est pour ça qu'il y a souvent besoin d'un accompagnement, mais ce n'est pas forcément une cure de désintox. On n'est pas obligé d'aller dans un hôpital. Mais être accompagné, c'est quand même pas mal. Et du coup, les associations, les structures dont on parlait tout à l'heure, c'est tout à fait envisageable.
Et les addictologues aussi, il ne faut pas hésiter à les rencontrer, ce sont de grands spécialistes. Et sur Avignon, on a de très bons addictologues.
Absolument.
Alors on parle souvent de drogue douce, drogue dure, est-ce qu'il y a vraiment une différence?
Il n'y en a pas.
Entre les deux?
La différence que certains font, et vous allez voir qu'elle est vraiment ténue, c'est qu'une drogue douce, il ne peut pas y avoir de décès par overdose.
Ah d'accord.
Voilà, c'est à peu
exactement,
près la seule
c'est la
chose.
Terminologie. Ouais.
Le problème, c'est que quand on regarde tous les décès impliqués par le comportement lié à l'usage de la drogue, je la vois pas douce, moi. Et puis, je sais pas si un jour vous rencontrez une personne qui a détruit sa vie à ne consommer que du cannabis, vous allez voir qu'elle est pas douce du tout, la drogue.
Oui, elle est plus lente. C'est parce qu'il n'y a pas d'effet direct. Au même titre que le tabac, on ne va pas mourir en fumant un paquet de tabac cet après-midi. Par contre, sur le long terme, sur une dizaine d'années, sur 15 ans, oui, on aura les conséquences. C'est justement parce que le risque n'est pas perçu immédiatement qu'on se l'accorde plus facilement aussi. D'où la mauvaise notification de dire drogue douce ou drogue dure.
Alors comment on peut savoir si une personne se drogue? Est-ce qu'il y a des signes visibles, on va dire? Peut-être que la personne elle va être distante.
Alors,
déjà.
Si vous connaissez la personne, si vous le connaissez avant sa consommation, vous pouvez remarquer un changement de personnalité. Vous pourrez remarquer plus d'absence, plus de silence, parfois les yeux plus brillants que d'habitude, des choses comme ça. Mais encore faut-il avoir un référentiel. Il faut savoir comment était cette personne avant.
Oui, si on n'a pas d'échelle, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué. À part faire des analyses, des tests urinaires et de sang, à première vue, on va voir la modification. C'est le changement qui va faire qu'on va s'interroger sur ce qui se passe. Mais sinon, c'est plus compliqué.
Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission. Et oui, je sais, ça passe très vite. Antoine voulait rajouter un dernier mot pour conclure et pour donner des conseils à nos auditeurs.
Moi, il y a une motivation que je trouve toujours très, très intéressante à mettre en avant, et je me la suis fait mienne depuis très longtemps. Je ne fume même pas du tabac, c'est vous dire.
Cannabis non plus,
vous imaginez bien. C'est rester libre. Rester libre. C'est devenir dépendant d'un produit, c'est perdre une partie de sa liberté.
Donc une partie de son cerveau.
Dorcas, peut-être un conseil pour nos auditeurs.
Ça va être compliqué. C'est le savoir-être. C'est vraiment travailler sur le savoir-être. Je ne vais pas juger, comme la dernière fois, enfin, on en a un petit peu parlé, l'alcool. On ne peut pas juger le consommateur d'alcool. Par contre, son incompatibilité sociétale et particulièrement sur la route est avérée. Je peux consommer de la drogue, mais par contre, les conséquences, je les connais. Donc, je prends un risque et j'entraîne des risques.
Alors juste, Antoine, étant donné que vous êtes consultant, peut-être si on veut vous contacter, comment il faut faire ?
Alors, pour contacter mon entreprise, c'est sur le www.routesécurité.fr, où là, effectivement, j'ai un formulaire de contact et on peut me poser toutes les questions. Ça arrive d'ailleurs régulièrement. Sinon, pour ce qui est de toute intervention possible des bénévoles de la préfecture, vous avez le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. Et dans ce cas-là, on peut écrire directement en préfecture.
Dorcas, pareil pour vous contacter si on veut des informations, si on veut en savoir un peu plus.
Tout à fait. Je vous encourage à aller sur le site qui est bien achalandé de la prévention routière, donc www.préventionroutière.asso.fr. N'hésitez pas à y aller. Vous avez pas mal d'informations, d'animations, de documents pédagogiques qui peuvent accompagner aussi des enseignants ou des associations.
En tout cas, je vous remercie tous les deux. Dorcas Trasters, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'RTVFM. Et merci beaucoup également Antoine Ruiz d'avoir participé à cette émission sur ma route qui était consacrée aux stupéfiants au volant aujourd'hui. Merci à vous tous et à très bientôt.
À bientôt.
RTVFM vous a présenté l'émission Sur ma route, réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse.